Louis-Marie, quels sont vos conseils ciné à l'approche des fêtes? Un petit tour sur Pandora, peut-être.
Peut-être bien, Jonathan, peut-être bien. Le voyage reprend donc avec la sortie très attendue d'Avatar de Feu et de Cendre. Le troisième volet de la saga de James Cameron, commencé en 2009, ramène les spectateurs sur Pandora, lune d'une planète géante d'un système stellaire lointain, très lointain. Cette fois-ci, la tonalité est plus sombre après le paradis aquatique de Metakinia. Place au territoire volcanique du peuple des cendres, mais laissons ces problèmes très très lointains pour leur préférer un thriller politique et une comédie romantique fantastique, elle aussi.
Bah alors commençons par le thriller politique alors, Louis-Marie.
L'Agent secret est sans doute le film le plus abouti et accessible du cinéaste brésilien Kleber Mendoza Filho. À la fois politique, romanesque et maîtrisé, il est situé à la croisée du cinéma d'auteur et du film de genre. Fidèle à son œuvre, le cinéaste poursuit sa critique des pouvoirs politiques et de la corruption, ancrée dans sa ville natale, Recife, et dans l'histoire brésilienne marquée par la dictature. Le film suit Marcelo, quadragénaire incarné par Wagner Moura, qui quitte Sao Paulo pour Recife dans les années 70, cherchant à la fois la sécurité, la vérité sur sa mère et un lien avec son fils. Le récit se déploie à travers plusieurs temporalités, mêlant présent, flashback et scènes contemporaines autour d'archives, dans une narration dense et captivante. Ponctué de scènes marquantes, parfois absurdes ou proches du cauchemar, le film intègre quelques éléments fantastiques sans jamais s'éloigner d'une approche réaliste et historique, centrée sur la manière dont les individus survivent dans un système oppressif. D'une grande efficacité formelle et sans effet gratuit, la dernière partie assume pleinement les codes du thriller. Présenté en compétition à Cannes 2025, L'Agent secret est un film majeur qui devrait rassembler un large public et ainsi consacrer définitivement Kleber Mendoza Filho comme l'un des cinéastes contemporains les plus importants.
Louis-Marie, je suis intrigué par la comédie romantique fantastique. Romantique et fantastique, ça va rarement ensemble.
Et vous avez raison.
Vous m'intriguez, Louis-Marie, après toutes ces années, c'est fou.
Oui, c'est vrai. Mais vous allez comprendre, Jonathan, vous allez comprendre tout de suite. Dans L'âme idéale, il est question d'Elsa, 40 ans, célibataire, qui a renoncé aux histoires d'amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres. Elle peut voir et parler aux morts. Pourtant, un soir, elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible.
Un petit peu comme moi.
Vous êtes un peu prétentieux, Jonathan. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n'est pas aussi réelle que ce qu'elle pensait. Alors que le premier film d'Alice Vial semble d'abord s'orienter vers une comédie romantique classique, L'âme idéale trouvera rapidement son originalité grâce à cet élément fantastique, son héroïne peut voir les morts. Loin de tomber dans le kitsch ou la comédie pesante, le récit emprunte au contraire des chemins sensibles et convaincants. Même si l'ensemble reste léger et parfois drôle grâce aux quiproquos liés à cette situation, le scénario privilégie surtout l'émotion et un romantisme sincère. Le film aborde des thèmes simples mais forts, l'importance de vivre pleinement, de s'assumer, le rapport à la mort, sans lourdeur ni discours appuyé. La réussite repose aussi sur son duo d'acteurs convaincant. Alors que Jonathan Cohen livre une performance sobre et touchante loin de la pure comédie, Magali Lépine-Blondeau séduit par son naturel et sa présence. Leur alchimie est évidente et porte pleinement l'histoire. Bien filmé, rythmé et riche en scènes émouvantes, le film parvient à toucher sans jamais tomber dans la sensiblerie. Entre rire discret et émotion profonde, L'âme idéale s'impose comme un premier film doux, émouvant, autant que réconfortant.
J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe.
Après cette session karaoké très courte, Louis-Marie, avec Alain Bachung, Vertige de l'amour, vous avez un autre conseil peut-être pour nous?
C'est pas un conseil, mais je voulais parler de Rob Reiner. Vous savez qu'il a été retrouvé mort poignardé avec sa femme Michelle Singer à leur domicile de Los Angeles. Et Rob Reiner était tout à la fois acteur, réalisateur et producteur. C'est en tant qu'acteur qu'il se fait connaître dans les années 70 à la télévision, notamment grâce à son rôle de Michael Stivic dans la série All in the Family. Et c'est en 1984 qu'il passe derrière la caméra avec Spinal Tap, un premier film audacieux et fondateur d'une décennie de succès. Perçu comme le plus chaleureux des représentants du cinéma populaire américain, il était un cinéaste discret mais majeur. Rob Reiner a construit en 40 ans une filmographie éclectique et maligne, faite de films cultes qui ont marqué plusieurs générations. Il a su exceller dans de nombreux genres, le film initiatique Stand By Me, la comédie romantique quand Harry rencontre Sally, le conte de fées décalé Princess Bride, le thriller Misery, adaptation remarquable de Stephen King ou encore le film de procès des Hommes d'honneur, incarnant ainsi un art du divertissement intelligent. Grand directeur d'acteurs, il a révélé ou magnifié des stars comme Meg Ryan, Jack Nicholson et Kathy Bates. Après les années 90, sa carrière connaît un déclin critique et commercial, malgré quelques tentatives de retour passées inaperçues, dont Spinal Tap 2, sorti peu avant sa mort. Politiquement engagé et progressiste, son énergie humaniste manquera dans le paysage culturel américain.
Come my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charm.